Ô Dieu, tu es le Tout-Puissant. Celui qui pouvait dire à Abraham, je suis le Tout-Puissant, est ta très grande récompense. Et nous connaissons la réponse d'Abraham, que me donneras-tu? Ô Seigneur, nous avons des besoins. Et ce que nous te demandons, c'est le don ineffable de Jésus. De Jésus en nous, pouvant grandir, se développer, croître, tout remplir. Car c'est en lui qu'est toute la plénitude de la divinité est dans la personne de ton Fils. Il t'a plu de manifester cette plénitude en vie. Et nous savons que si nous avons ton Fils, c'est par lui que nous avons, et par lui seul, cette plénitude qui doit nous remplir comme tu le désires, afin que nous soyons à l'image de ton bien-aimé. Que ta grâce nous soit donnée pour parler, que ta grâce nous soit accordée pour recevoir cette parole. Donne-nous de laisser tout ce qui est étranger à cette parole et souligne-nous par ton esprit ce qui nous est utile et nécessaire pour ta seule gloire en Jésus. Amen. Eh bien, mes amis, avant toute chose, je voudrais vous rappeler la grande affirmation du livre de Malachie, « Je vous ai aimé, dit l'Éternel », ou « Je vous aime ». Et si c'était vrai ce matin, c'est encore vrai cet après-midi, car lui ne change pas. Et voyez-vous, plus nous apprenons à le connaître, puisqu'il est amour, plus nous entrons dans cet amour, et plus nous découvrons que nous sommes aimés et que nous sommes bien-aimés, que nos cœurs soient sensibles à cette affirmation de Dieu et qu'il n'y ait pas parmi nous un cœur incrédule pour dire encore en quoi nous as-tu aimés. Je pense que depuis ce matin, vous vous êtes posé quand même certaines questions. Quelle conscience avons-nous de cet amour? Et je voudrais que cela se précise pour vous, car demain après-midi, si Dieu nous permet d'être ensemble, nous aimerions vous entendre, vous, parler de cet amour dont vous êtes aimé de Dieu. Nous aimerions que vous ayez quelques faits tout à fait précis, que l'Esprit Saint vous aura rappelé, parce que c'est le Saint-Esprit qui devient notre mémoire, et qui vous rappellera peut-être même des faits qui ont précédé votre conversion, et qui maintenant vous apparaissent comme des signes de l'amour de Dieu, qu'il vous aimait déjà avant votre conversion. Et voyez-vous, si nous le pouvions, nous pourrions aussi parler de son amour quand nous étions encore dans le sein maternel. Je te connaissais quand tu étais dans le sein de ta mère. Et pour les femmes qui parmi vous nous sont enceintes, c'est quelque chose de fantastique de penser que Dieu vous suit, qu'il suit le développement de ce petit être dans votre sein. Vous n'êtes pas seul. Dieu est sur vous. Et ces membres de ce petit trésor qui se forme en votre sein, eh bien, c'est Dieu qui les façonne. Alors, prenons exemple de nos sœurs enceintes et que nous aussi, nous laissions tous façonner par Dieu et qui veut former en nous non plus un enfant selon la chair, mais son Fils, L'apôtre Paul, lui, c'est à cela qu'il travaillait, que Christ soit formé dans les âmes. Et c'est cela qui compte pour nous, que le Christ ait grandi dans vos pensées, dans vos cœurs, au cours de cette retraite. Et nous aimerions que vous puissiez témoigner d'une façon personnelle quelques faits nous prouvant l'amour de Dieu. Ce Dieu d'amour qui s'est présenté à nous, comme nous l'avons lu dans Malachie, comme un père. Et quand je m'arrête à ce fait qu'il nous dit « mais je suis un père », eh bien, le Seigneur m'a parlé. Est-ce que je l'ai honoré jusqu'à ce jour comme mon père? Je parle de Dieu, mais est-ce que j'honore mon Père, Dieu est mon Père? Est-ce que je l'honore dans ma vie? Est-ce que les gens se rendent compte que je suis un enfant obéissant, honorant mon Père, le respectant, me souvenant que son nom est saint? J'ai appris aussi, et vous avec moi, que cette journée du 16 novembre, eh bien, Dieu est notre maître. Alors, est-ce que ce Dieu qui est mon maître, est-ce que j'ai vécu dans sa crainte? Vivons-nous dans la crainte de Dieu, et qui n'est pas la peur de Dieu, la peur d'une condamnation, la peur d'un jugement, mais et qui est cette peur de lui déplaire? Mais je t'aime tellement, Seigneur, que si je savais que cela peut te déplaire, ou je haïrais cette chose. Oh, que Dieu vous donne cette sainte haine de ce qui pourrait lui déplaire, parce que vous l'aimez, nous l'aimons, lui qui nous a aimés le premier. Et voyez-vous, il n'y a que l'amour qui peut vous faire triompher de toutes les tentations et de tout ce que le monde peut vous offrir. Est-ce que cela plaît à mon Seigneur? Est-ce que Dieu prend plaisir aux choses auxquelles moi je prends plaisir? Si ce n'est pas cela, eh bien donne-moi d'avoir une haine de ces choses. Parce que tu es mon Père, parce que tu es mon Maître. Et je me suis posé cette question, est-ce que j'ai conscience d'avoir plusieurs fois méprisé au fond son nom, de l'avoir profané? À deux reprises, nous avons entendu ce matin Dieu nous dire « N'est-ce pas mal, cette chose-là? N'est-ce pas mal, cette autre chose? » Mais nous, nous disons « Mais il n'y a pas de mal à cela. Tout est pur pour ceux qui sont purs. Hein, tout est pur pour ceux qui sont purs. Tout est souliers pour ceux qui sont souliers. » Moi, je suis parmi les purs. Alors, tout est pur, peut-on me permettre? C'est vrai que toutes choses sont permises. Mais tout est permis, vous n'allez pas nous remettre sous la loi, non. Je n'ai pas l'habitude de mettre les gens sous la loi. Je me laisse enseigner par la grâce, et non pas par la loi. Mais la grâce, justement, elle m'enseigne l'équilibre. Elle m'enseigne comment j'ai à vivre dans ce monde d'impiété. Justement quant aux autres, sobrement quant à moi-même, et puis pieusement quant à Dieu. D'avoir vraiment une relation avec Dieu, d'être relié à Dieu. Nous sommes des gens reliés à Dieu. Comprenons-le. Alors, est-ce que nous savons encore faire la différence entre ce qui est saint et ce qui est profane, entre ce qui est pur et ce qui est impur? Ou bien est-ce que tout est mélangé? Parce que à force de mêler le noir et le blanc, ça donne du gris. Hein, et les gens voient gris aujourd'hui. Eh bien, je demande au Seigneur qu'il me purifie pour que je puisse encore faire cette distinction. J'ai besoin, parce que nous sommes dans un temps semblable à celui dont il est parlé dans l'église de Laodicée, la dernière des sept églises de l'Apocalypse, où vraiment nous nous croyons riches, enrichis, n'ayant besoin de rien, et où nous ne voyons pas, que nous ne comprenons pas que nous sommes peut-être aveugles, et que nous sommes nus, aveugles, nus. pauvre, d'une pauvreté incroyable, pauvreté spirituelle, aveugle, nous ne voyons pas loin. Alors je me pose ces questions. Et je voudrais aussi vous demander, toujours en reprenant ce chapitre, est-ce que nos prières, qu'est-ce qu'on peut en dire? Est-ce qu'elles sont exaucées? Est-ce que nous connaissons ce grand roi, ce Dieu tout-puissant qui exauce nos prières, parce qu'il est tout-puissant? Un Dieu qui exauce nos prières. Est-ce que nous vivons des exaucements de Dieu? Parce que nous savons encore lui demander toutes choses. Mais justement, est-ce que nous demandons à Dieu toutes choses? Est-ce que nous allons à Dieu pour toutes choses? Est-ce qu'il y a une chose que nous pouvons faire sans Dieu? Je crois que nous devrions comprendre que nous ne pouvons rien faire sans lui. Parce que c'est vrai, c'est Jésus qui l'a dit. Hors de moi, vous ne pouvez rien faire. Alors, tout ce qu'on fait, sans lui, ça s'appelle rien. Rien, rien. Alors, c'est beaucoup. Hors de moi, vous ne pouvez rien faire. Alors, en lui, saint Paul nous dit, je puis tout. Oh, c'est fantastique, ça. Je puis tout. Mais vous voyez, je ne vous dis rien de nouveau. Mais ce sont des mots qui doivent nous pénétrer. Les paroles du Seigneur sont esprit et sont vie. Et quand je dis les paroles du Seigneur, ça peut tout aussi bien être les paroles de l'apôtre Paul. Mais l'apôtre Paul a parlé dans le Seigneur. Et les paroles que nous vous disons sont des paroles qui sont esprit et vie, qui sont les paroles du Seigneur. Et c'est pourquoi nous voulons les recevoir. Dieu exauce-t-il nos prières? Oh, comme nous voudrions pouvoir vous entendre dire des choses précises. Oui, c'est vrai, Dieu m'a exaucé. Il m'a répondu. Parce que ce que je demandais, ce n'était pas pour mon intérêt, c'était pour sa gloire. Parce que je désirais qu'il soit glorifié. Et Dieu s'est glorifié. Je l'ai mis à l'épreuve, comme nous le verrons ce soir. Mettez-moi à l'épreuve. Voilà votre Dieu. Dans votre tête-à-tête de ce soir, il va vous dire, mettez-moi à l'épreuve. Je suis un grand roi. Mais est-ce que vous le pensez à court? Pensez qu'il va bientôt faire faillite, comme les banques canadiennes? Ah non. Vous pouvez lui faire confiance. Alors, pensez à tout cela pour que ça devienne pratique. Puis peut-être, est-ce que vous êtes fatigué du service pour le Seigneur? Parce que vous êtes tous au service du Seigneur. Et j'aimerais bien le souligner, ça. Parce que je crois que c'est le seul secret d'une église vivante quand tous sont au service du Seigneur. Chacun a sa place. Nous ne prenons pas la place d'un autre. Chacun a sa place. Chacun a sa fonction. Chacun est dirigé par le Seigneur dans des tâches diverses. J'entends toujours le professeur Karl Barth, un éminent théologien, qui disait dans un cours à Lausanne que la personne qui balayait l'église, mais qui le faisait en toute conscience parce que c'était la salle où allaient se réunir les croyants et son Seigneur, elle avait plus d'importance aux yeux de Dieu que le pasteur qui allait prêcher. Et c'était vrai, ça. C'était vrai, parce que chaque chose qui est faite de cœur pour le Seigneur a un prix infini pour Dieu. Mais alors, il faut le faire de cœur, pas parce que c'est ma fonction, je suis prédicateur. Alors, j'accomplis ma fonction de prédicateur. Il faudrait encore, si je suis prédicateur, que le Seigneur m'inspire ma prédication. Parce qu'on peut prêcher, mais on peut prêcher aussi dans la chair. Il y a des dons qui sont des dons charnels. On peut bien structurer un message, on a appris cela aux écoles, et puis on vous présente cela, et c'est bien. Et alors les gens applaudissent. Alors c'est à la gloire de l'homme. Puis on entend, il a bien parlé. Il a bien parlé. Donc on n'a rien compris. Parce que justement, quand un prédicateur parle bien, ça fait mal. ça fait mal parce que c'est une parole qui nous transperce, c'est une parole qui met le doigt sur la plaie, qui débride peut-être un abcès. Et alors, on en veut quelquefois au prédicateur. C'est pourquoi j'aime mieux, c'est pas parce que je ne veux pas avoir des entretiens avec vous, mais si vous me demandez tout de suite, le premier jour des entretiens, je ne pourrai plus vous parler. Parce que chaque fois que je dirai quelque chose, vous vous direz, il a dit ça pour moi. Or, j'aime mieux ne pas savoir vos problèmes. Pour que quand la parole vous est donnée, vous vous disiez, il ne savait pas ça, puis il a dit cela. Ou bien personne ne m'a parlé de l'un ou de l'autre. Parce qu'il y a toujours des gens très bien intentionnés qui, quand on arrive dans une église, nous signalent qu'il y a telle personne qui devrait entendre ça, et puis telle autre qui devrait entendre ça. Alors moi, je leur dis, mais si vous savez si bien tout ce que ces gens ont besoin, pourquoi vous ne leur parlez pas vous-même? J'ai plus rien à dire. Vous savez quels sont leurs besoins, ben parlez-leur. Vous dites-leur la vérité. Vous savez ce dont elles ont besoin. Pourquoi est-ce que vous voulez me charger, moi? Oh, mais vous êtes de passage. De passage. Bien sûr, je sais que je suis de passage. Je m'appelle Racine, mais je ne suis pas un enraciné. Je ne suis que de passage. C'est vrai. Nous sommes de passage. Il n'y a qu'à aller au cimetière, là, on le voit. Hein? Nous ne sommes que de passage. Mais, quand nous passons, qu'est-ce qu'il faisait Jésus? Il allait de lieu en lieu faisant du bien. Et vous savez, pour faire du bien, des fois, il devait dire des vérités qui faisaient mal. Et c'est comme ça qu'on fait du bien. Et il y a des âmes qui nous remercient longtemps, comme nos enfants aussi, nous remercient des années après. Papa, merci de m'avoir pas dit oui dans cette histoire. Parce que je n'étais encore qu'un enfant. J'étais fou à ce moment-là. Ça nous dit j'étais fou. Alors le père, il était encore plus fou que son fils de le laisser faire. Les enfants, ils s'attendent à ce qu'il y ait quand même une certaine autorité. Mais il y a eu démission maintenant de l'autorité. Alors, nous avons besoin, que nous soyons parents, que nous soyons enfants, nous avons besoin de retrouver ces vérités élémentaires, mais qui sont essentielles. Alors, sommes-nous fatigués au service du Seigneur? Vous êtes tous au service du Seigneur. Et vous dites, mais oui, nous sommes tous fatigués. Mais c'est fatigue. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Venez à moi, serviteur de Dieu, plein temps, qui prêche, vous êtes fatigué. Il n'a pas dit ça. Il a dit, venez à moi, vous tous. C'est vrai ou c'est faux? Est-ce que nous ne nous embrassons pas à tous? Venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués et qui êtes chargés. S'il y a des gens fatigués, ce n'est pas que les serviteurs de Dieu. S'il y a des gens fatigués, ça peut être tous. Hein. Mais si... Il y a des gens qui ont besoin de repos, c'est tous qui peuvent avoir du repos. Vous pouvez tous avoir du repos. Dans vos travaux les plus difficiles, les plus terribles, les plus pénibles, dans ces contacts avec le monde que vous avez les uns et les autres, dans ces relations qui sont des fois difficiles avec vos supérieurs ou vos subordonnés, peu importe votre position, mais le Seigneur vous dit, tu as des difficultés, viens à moi, tu auras du repos. Puis il ajoute, prenez mon joug sur vous. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire? Acceptez que je vive avec vous, acceptez de marcher avec moi. Le joug, il est mis sur deux êtres, hein? Sur deux animaux, deux bœufs par exemple. Alors, il n'y en a pas qu'un qui porte, c'est deux animaux qui porte le joug. Alors, si le Seigneur porte le joug et moi à côté, eh bien, c'est avec le Seigneur que le joug est porté. Et je dirais que le poids du joug, le Seigneur le porte plus que je ne le porte moi-même. Quand on est à côté du Seigneur, quand on marche avec lui, eh bien, son joug est doux. Et son fardeau est léger. C'est un menteur. Mais nous ne sommes pas sous son joug. Nous nous mettons sous toute espèce de joug. Des jougs religieux. Des jougs même évangéliques. Oh, il y a des fabriques de joug, maintenant, dans nos milieux. Et on vous met sous toute espèce de joug, puis vous n'en pouvez plus. On est en train de vous crever. Alors, le Seigneur, lui, voudrait que vous reveniez à lui. pour que vous connaissiez son repos. Prenez mon joug et recevez mes instructions, pas les instructions d'X, d'Y ou Z. Vous dites, oh, autrefois, nous étions dans telle communauté, dans telle église, etc., ma religion de naissance, puis là, je subissais toute espèce de joug. Puis maintenant, quel joug subissez-vous? Vous avez changé de joug, simplement? Mais je vous demande, est-ce que c'est le joug du Seigneur? Ou bien est-ce que c'est le joug d'une autre communauté? Il faut que ce soit le joug du Seigneur. Prenez mon joug, pas un joug religieux, le joug de Jésus. Vous l'avez dit si souvent, pas de religion, mais un sauveur. Alors acceptez aussi le joug du Seigneur, et non pas le joug des traditions, le joug des hommes. Parce que ces jougs vous fatiguent. Maintenant, une autre question, vous pouvez vous demander, est-ce que Dieu peut agréer notre culte? Le culte que nous lui rendons, est-ce que vraiment c'est un culte que le Seigneur peut lui agréer? Qu'est-ce que c'est que ce culte? Mais c'est nous qui apportons notre louange au Seigneur, mais qui nous offrons avec nos louanges. Alors, qu'est-ce que nous offrons? Bêtes aveugles? Boiteuses? Qu'est-ce que nous sommes pour le Seigneur dans le culte? Parce que c'est ça qu'il voudrait contempler. Est-ce que devant son Père, est-ce que nous avons quelque chose à dire? Quelque chose à dire à notre Père des cieux de qui? De qui parlez-vous dans le culte? De vos expériences personnelles seulement? De qui devrions-nous parler dans un culte au Père que nous adorons en esprit et en vérité? Qu'est-ce qui fait les délices du Père? C'est son Fils. Alors de qui pourrions-nous parler au Père pour qu'il soit heureux? De son Fils, de tout ce que vous avez trouvé en son Fils, de ses merveilleuses possibilités. C'est ça la prière d'adoration. Je l'adore parce que tu m'as donné Jésus, un don ineffable. On a quelque chose à dire au Père de Jésus, non pas de nous-mêmes. De nous-mêmes, nous savons ce que nous sommes, pécheurs, perdus, il nous a tellement aimés. Mais cessons toujours de parler de nous-mêmes dans le culte et parlons à notre Dieu de ce qui lui plaît. De son Fils, de ce que Jésus a été pour vous dans la semaine, de ce que vous avez découvert de lui, de ses bontés, car combien grande est sa beauté, dit Zacharie, et combien grande est sa bonté, les deux choses, hein, combien grande est sa bonté, combien grande est sa beauté, mais alors il faut l'avoir vu, mais qu'est-ce que nous regardons dans la semaine, la télévision? Ah oui, les émissions religieuses. Bien sûr, loué soit le Seigneur pour tous les moyens qu'il emploie, mais c'est lui que nous devons voir par ce poste céleste, la contemplation du Seigneur dans les Écritures. Ce Seigneur avec qui aujourd'hui nous avons encore un tête-à-tête. Voyez-vous, nous devrions nous demander, qu'est-ce que nos cultes pourraient recevoir, pourraient être transformés? Parce que c'est quand même terrible quand on voit que Dieu n'est pas du tout satisfait de ses cultes. Mais vous rendez-vous compte, j'ai dit que vous devriez lire le chapitre 15 du Deutéronome pour que vous compreniez pourquoi ça ne pouvait pas aller du tout. Verset 19 du chapitre 15. Tu consacreras à l'Éternel, ton Dieu, tout premier-né, mâle. On m'a demandé, mais qu'est-ce que ça veut dire, mâle? Ben, c'est parce que c'était dit qu'il fallait consacrer à Dieu un premier-né mâle. Alors, si j'offre un premier-né femelle, qu'est-ce que je fais? Je désobéis au Seigneur, là. Et qui naîtra de ton gros et de ton menu bétail. Tu ne travailleras point avec le premier-né de ton bœuf. Tu ne tondras point le premier-né de tes brebis, etc. Voilà une des choses qui était donnée. Verset 21. S'il a quelque défaut, s'il est boiteux, tu l'offriras pour t'en débarrasser. Pas d'affaire. C'est ça? S'il est boiteux ou aveugle, ou s'il a quelque autre difformité, tu ne l'offriras point en sacrifice à l'Éternel ton Dieu. C'était écrit ou c'était pas écrit? C'était écrit, puis on faisait le contraire. Vous comprenez? C'était écrit et on faisait le contraire. Donc on était responsable. Mais il n'y a pas de mal. Puis Dieu est tellement miséricordieux. C'est le bon Dieu. J'aime pas cette expression. Dieu est bon. Mais je n'aime pas cette expression, le bon Dieu. On l'a mis à toutes les sauces. Prenez maintenant dans Lévitique aussi. Et il y a quelque chose, c'est Lévitique 22, je crois. Hein. 22, alors là, c'est simplement pour que vous voyez comment on peut lire l'Ancien Testament. Vous dites, mais enfin, qu'est-ce que c'était si grave? Eh bien, vous le voyez maintenant. La transgression, est-ce que Dieu peut agréer ça quand il a parlé? Non, il a parlé pour ne rien dire. Lévitique 22, à partir du verset 17. Sacrifice sans défaut. L'Éternel parla à Moïse, parla à Aaron et à ses fils et à tous les enfants d'Israël. Tu leur diras, tout homme de la maison d'Israël ou des étrangers en Israël qui offrira un holocauste à l'Éternel, soit pour l'accomplissement des vœux, ou soit comme offrande volontaire, prendra un mâle sans défaut parmi les bœufs, les agneaux, les chevreaux, afin que sa victime soit agréée. Dieu désire agréer nos victimes, vous comprenez? Mais il faut que ce soit conforme. Vous n'en offrirez aucune qui ait un défaut, car elle ne serait pas agréée. Si un homme offre à l'Éternel du gros du menu bétail en sacrifice d'action de grâce, soit pour l'accomplissement d'un vœu, soit comme offrande volontaire, la victime sera sans défaut, afin qu'elle soit agréée, il n'y aura en elle aucun défaut. Vous n'en offrirez point qui soit aveugle, estropié ou mutilé, ou qui ait des ulcères, la gale ou une dard. Mais quelle bonne affaire, hein. Liquider tout ça au temple pour préserver mon écurie. Vous n'en ferez point sur l'autel un sacrifice consumé par le feu, dit l'Éternel. Tu ne pourras pas, etc. Alors, lisez vous-même. Mais je me permets de vous montrer que la Bible s'explique par la Bible. Alors, quand maintenant, le verset 8 du chapitre 1, quand vous offrez un sacrifice en une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Est-ce pas mal? Est-ce pas mal? Bien maintenant, vous pouvez bien comprendre tout ce passage. Et alors, tu voudrais être agréé? Non. Alors, je demande maintenant pour nous, peut-il agréer notre culte? Est-ce que nous avons conscience que celui que nous adorons, c'est un grand roi? C'est le Seigneur. Alors, voilà le premier chapitre. Maintenant, quelqu'un m'a dit aussi qu'il avait peut-être un peu de peine à comprendre cette histoire de l'amour de Dieu pour Jacob. Et il semble toujours, quand vous relisez le chapitre 9 des Romains, que comme si Dieu aurait été injuste avec Ésaü. Mais pas du tout. Dieu étant Dieu, eh bien, qu'est-ce qu'il a fait? Il a promis à Abraham, parce qu'il l'a choisi lui. Pourquoi Abraham plutôt qu'un autre? C'est le choix de Dieu. Dieu est Dieu, il peut choisir qui il veut. Il a choisi Abraham. Et il lui a dit que c'était en lui que seraient bénies toutes les nations. Mais il lui a bien dit que ces nations seraient bénies par qui? Par quel homme? Par quel descendant? Par Isaac. Par un fils de qui? De sa femme légitime qui s'appelait comment? Sarah. Mais le pauvre Abraham, quand il a vu que ça traînait, et que sa femme, très compréhensive, elle était compréhensive, notre Sarah, elle lui a dit, ben écoute, ça traîne avec moi, puis c'est fini, tu sais très bien. Alors, pourquoi est-ce que tu ne prendrais pas la petite princesse égyptienne que le pharaon m'a donnée pour te couvrir, hein, parce qu'il voulait un peu réparer. Mais alors, prends la petite Sarah, la petite Agar. Puis il a eu un fils d'Agar, hein, qui s'appelait Ismaël. Mais est-ce que c'était Ismaël qui allait hériter? Est-ce que Dieu était méchant vis-à-vis d'Israël? Non, il l'a laissé vivre. Et il lui a donné aussi des possibilités. Il a pris soin même d'Agar. Hein. Il l'a retrouvé au désert. Il n'a pas laissé périr Agar. Nous avons un Dieu qui aime les Arabes. Nous avons un Dieu qui aime les Égyptiens. Nous avons un Dieu qui aime aussi Agar et les descendants. Ça, c'est vrai. Mais Dieu est libre dans ses choix. Ce n'est pas d'Agar que naîtra l'héritier que je me suis proposé dans mon conseil éternel, c'est Isaac veut Isaac. C'est risible, du reste Isaac ça veut dire rire. Tout le monde a ri. Quand Abraham a su qu'il aurait un fils, il a ri. Alors Dieu lui dit, tu l'appelleras Isaac, rire. Oui. Quand Sarah a entendu Dieu raconter qu'elle aurait un fils, elle a ri derrière la toile. Et Dieu a bien vu qu'elle avait ri, même si elle riait dans son cœur. Et puis après, Ismaël, lui aussi, il a ri quand on a sevré ce petit Isaac. Quand ce serait lui qui serait en bénédiction pour tout. Mais c'est ça notre Dieu. Notre Dieu est libre dans ses choix. Mais Ismaël n'a pas à être jaloux. Ismaël aura sa vie, mais Isaac a sa vie. Maintenant, de cet Isaac, eh bien, Dieu nous dit que il a dit que en Isaac, donc, te sera appelée une semence. Et voilà que sa femme, Rebecca, a pris 20 ans de stérilité. Vous voyez qu'ils sont éprouvés, les hommes de Dieu. Pendant 20 ans, il s'est marié à 40 ans, Isaac, et puis à 60 ans seulement, sa femme lui dit chance, hein. Formidable. Oui, mais qu'est-ce qui se passe? Ça va mal. Il y en a deux. Elle a bien dû sentir qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, ou qui allait trop bien. Alors elle apprend qu'il y en a deux. Mais Dieu dit que le plus jeune serait, au fond, celui que Dieu bénirait d'une façon particulière. On va lire ça dans le chapitre des Romains, pour qu'il n'y ait pas d'ombre. Hein. Chapitre 9 des Romains. Car ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Verset 7. Et bien qu'ils soient de la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Mais il est dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu. Vous l'avez compris ça, hein? Mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme une postérité. Voici en effet la parole de la promesse, je reviendrai à cette même époque et Sarah aura un fils. Et de plus, il en fut ainsi de Rebecca, qui conçut seulement d'Isaac notre père. Car les enfants n'étaient pas encore nés, et ils n'avaient fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsiste sans dépendre des œuvres. Donc, ni Jacob, ni Ésaü n'ont été prédestinés parce qu'ils avaient fait quelque chose de bien ou de mal. Ils n'avaient fait ni bien ni mal. Mais Dieu est Dieu. Et il est libre dans ses choix. Alors, avant qu'il ait fait ni bien ni mal, Dieu avait décidé, c'est lui qui appelle, par la seule volonté de celui qui appelle, il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit. Et quand c'est que ça a été écrit, cela, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Dans Malachie, donc, 1600 ans après leur naissance, qu'il ait dit j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Ils ont eu l'occasion de vivre et de manifester ce qu'était leur vie. Dieu n'a pas haï Ésaü avant sa naissance, ça c'est faux. Ce serait mal interpréter la chose. Mais il avait choisi Jacob, et Jacob a cru à ce choix, et malgré qu'il était peut-être minable, Dieu a fait de Jacob le père de tout Israël. C'est quand même merveilleux. Hein? Même si vous êtes un minable, est-ce que ça vous console? C'est ça que ça veut dire. Même si tu te sens minable, Dieu t'aime. Tandis que si tu te sens capable, si tu te sens vraiment en forme, si tu te sens un Ésaü qui dit, je reconstruirai tout cela, j'arriverai par moi-même, je suis un grand chasseur devant l'Éternel, eh bien ça n'arrivera pas. Tu ne peux pas t'opposer à Dieu. Tu ne peux que te laisser faire par Dieu. Et si Ésaü s'était laissé faire par Dieu, il pouvait avoir une vie bénie. Mais Dieu n'était pas injuste à son égard. Mais lui, après avoir méprisé son droit d'aînesse, parce qu'il avait le droit d'aînesse, mais il l'a méprisé. C'est pas Dieu qui l'a fait mépriser son droit d'aînesse. N'allez pas dire cela. Il n'y a pas d'injustice en Dieu. Mais quand dans ma nature se manifeste une volonté ouverte opposée à Dieu, Dieu ne peut pas me bénir. Si dans votre nature vous voulez vraiment suivre les désirs de votre cœur, ben suivez-les, que celui qui est souillé se souille encore, mais que celui qui est saint se sanctifie encore. Ben, si vous voulez vous souiller, eh bien, continuez dans votre chemin d'impureté. Mais ne venez pas dire que c'est Dieu qui vous corrompt. Il y a quelqu'un qui pourrait témoigner ici qu'il y a quelque temps, on a posé cette question dans une réunion au sujet des films pornographiques. Mais si je vois un film pornographique avec ma femme, eh bien, il n'y a pas de mal à ça, n'est-ce pas? Vous voulez que M. Racine mette la bénédiction sur la pornographie, hein? Pornographie privée, pornographie pour milieu évangélique, dans l'intimité conjugale. Hein, oui, parce que ça nous met en forme. Les évangéliques en forme, dans l'intimité conjugale, parce qu'ils ont vu, les enfants sont couchés maintenant, on voit notre film pornographique. Parce qu'il est dit que toutes choses sont permises, puis que tout est pur pour celui qui est pur. Mais vous vous rendez compte jusqu'où on va? Puis alors après, ben voilà, justement, le lendemain, vous rencontrez justement une femme qui vous offre tout ce que vous avez vu, puis qui vous l'offre peut-être encore mieux que votre femme a pu le faire. Parce qu'elle a moins de scrupules. Et alors, vous ne pouvez pas résister, c'est pas possible. Vous êtes rempli de ça. Puis vous voulez être dans le Seigneur, c'est pas possible. Il n'y a pas de miracle. Alors, il y a des choses auxquelles nous renonçons, nous disons non. Ce que j'ai dit souvent, je ne peux pas me tremper dans un tonneau de suie et être blanc. Mais peut-être que vous pouvez l'être. Alors, passons. Mais n'accusons pas Dieu. Nous courons vers les tentations, puis nous tombons. Puis après, on dit, pourquoi est-ce que Dieu a permis cela? Qu'est-ce que vous avez écouté dès le matin? Qu'est-ce que vous avez regardé très tard le soir? Pourquoi est-ce que Dieu a permis cela? C'est du pratique, l'Écriture et l'Ancien Testament. C'est vraiment du pratique. Alors, nous restons avec cette grande pensée que nous avons un tête-à-tête avec un grand roi. On ne se moque pas de lui. Il est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Apocalypse 19, versets 15 à 16. Le dernier livre de l'Ancien Testament dit qu'il est un grand roi. Le dernier livre du Nouveau Testament nous dit qu'il est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. C'est à la lumière de ces paroles que nous avançons dans notre étude. Alors, notre Ésaü, nous l'avons souligné, eh bien, je ne vais pas revenir sur ce que j'ai dit ce matin, mais on a vu les points dans sa vie qui ont manifesté pourquoi Dieu doit dire à la fin, j'ai haï Ésaü. Il n'a pas haï l'homme, mais les œuvres d'Ésaü, parce qu'il s'est montré profane, et qu'il n'a pas pleuré sur ses péchés, il a pleuré sur la bénédiction perdu, parce que tout à coup, il a vu que, au fond, il aurait gagné quelque chose. Mais on ne se moque pas de Dieu, ce qu'un homme sème, cela aussi, il le moissonnera. Mais, mes amis, ça devrait vous encourager de penser que Dieu vous aime non pas à cause des œuvres que vous avez faites, mais parce qu'il vous a choisi. Est-ce que ça vous fait quelque chose? Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, dit le Seigneur. Chapitre 15 de Jean, verset 16. C'est moi qui vous ai choisi et qui vous ai établi. Et quand vous apprenez que vous avez été choisi dès avant la fondation du monde, ça vous donne quand même une assurance au sujet de votre salut. Votre salut ne dépend pas de vos œuvres, de votre situation d'aujourd'hui, maintenant, de votre piété, de la flamme et de la ferveur que vous avez aujourd'hui pour le Seigneur, parce que demain, on a peut-être un mauvais moment, et alors je ne serai plus du tout sûr. Je sais qu'il m'a choisi, je sais que je suis un homme de chair, et il m'a montré ce que je devais faire, comment je devais veiller à cette nature pour laisser le Seigneur prendre la première place et me diriger en toutes choses. Je sais que Dieu désire avoir mes membres, que si moi je garde mes membres pour en faire ma volonté, eh bien qu'est-ce que je ferai avec mes membres? Je pêcherai. C'est avec quoi qu'on pêche? Avec le petit membre d'abord, hein? Avec notre langue. Celui qui saurait tenir sa langue en bride, il tiendrait tout son corps en bride aussi, hein? C'est Jacques qui nous dit ça. Alors, mes membres doivent être livrés au Seigneur. Livrez vos membres à Dieu. Et c'est lui qui va employer nos membres. Parce que si j'en garde, moi, l'emploi, dans un tel monde, j'emploierai mes membres pour le péché. Et j'aurai comme fruit, quoi? La mort. Hein? Tandis que si nous livrons nos membres au Seigneur, nous avons, alors, nous devenons instruments de justice et nous avons comme fruit la vie éternelle, la sainteté. Hein? Alors maintenant, à vous cet ordre sacrificateur. C'est donc que le sacrificateur, c'était celui qui avait été choisi par Dieu pour enseigner la foule, pour accomplir son saint service dans le sanctuaire et pour offrir les victimes, justement, à Dieu. En attendant le grand souverain sacrificateur que serait Jésus, Dieu avait institué Aaron comme grand sacrificateur pour recevoir les offrandes que les pécheurs israélites apportaient à Dieu et qui mouraient à leur place. Qui est-ce qui aurait dû mourir? L'homme pécheur. Mais Dieu lui donnait une victime. Mais il fallait que cette victime soit sans défaut. Parce qu'elle devait représenter qui? Jésus. Alors il fallait qu'il soit sans défaut. Car le Christ était sans défaut. Et alors, en mettant les mains sur la victime, c'est ça l'imposition des mains, on s'identifiait à la victime, on confessait les péchés, et les péchés qui étaient sur moi étaient sur la victime, et qu'est-ce qui mourait? C'était la victime. Mais j'avais sous les yeux que mon péché, au fond, est infiniment grave aux yeux de Dieu, et que sans effusion de sang, il n'y a pas de rémission. C'était un enseignement qui était donné. Mais est-ce que le sang des taureaux, des agneaux et des boucs allait sauver les pécheurs? Non. Dieu patientait par ce moyen, mais tous les gens de l'Ancien Testament qui ont apporté des victimes, ont été sauvés non pas par leurs victimes, mais par l'obéissance à Dieu en attendant le plus excellent sacrifice. Ils regardaient à celui qui devait venir. Tandis que nous, nous regardons à celui qui est venu. De sorte que vous voyez, nos regards se rencontrent, nous sommes tous réunis à la croix. Les anciens de l'ancienne alliance, eh bien, ils sont sauvés par la foi en celui qui devait venir. Et nous, nous sommes sauvés par la foi en celui qui est venu et qui reviendra. Voilà l'unité. Alors, les sacrificateurs avaient donc une tâche bien précise. Et c'était des gens qui avaient été appelés, non pas parce qu'ils étaient meilleurs, mais que Dieu les avait choisis au milieu de toutes ces tribus d'Israël. Dieu en avait choisi une pour faire son service parmi les 12 tribus. C'était quelle tribu? La tribu de Lévi. Alors lisez Exode et le Lévitique. Cette tribu de Lévi était particulièrement représentée par le frère de Moïse qui s'appelait Aaron. Et puis les fils de Moïse, combien est-ce qu'il en avait de fils? 4. Hein? Et ceux qui ont survécu, parce qu'il a perdu 2 fils dans l'exercice du sacerdoce, parce qu'ils n'ont pas obéi. Parce qu'ils ont voulu innover. Dieu avait dit comment il fallait fabriquer le parfum. et qu'il fallait pas offrir un feu étranger sur l'autel. Eux ont pensé, et pourtant ils avaient vu Dieu, ils avaient été convoqués, ils avaient eu un tête-à-tête avec le Seigneur sur la sainte montagne. Ils avaient eu une révélation magnifique, il est dit qu'ils avaient vu le Seigneur dans sa gloire. Et ils étaient redescendus, et malgré cette vision, ils ont osé ajouter quelque chose. En fabriquant l'encens, et ils ont offert un feu étranger que Dieu n'avait pas commandé. Et qu'est-ce qui est arrivé? Ils sont morts. C'est ça le péché qui conduit à la mort. Je ne dis pas qu'ils sont perdus, mais ils ont été retranchés. Parce qu'on ne se moque pas de Dieu. Et Dieu n'a pas voulu qu'Aaron porte le deuil sur ses deux fils qui avaient péché. Alors il lui en restait deux qui étaient Éléazar et Ithamar. Et le fils d'Éléazar, parce qu'on aura l'occasion d'en parler ici, s'appelait comment? Phiné. Et c'est cet homme qui a relevé en quelque sorte la tribu de Lévi. Alors, donc c'était cette tribu de Lévi qui avait l'office de sacrificateur. Donc, il représentait Dieu auprès du peuple, et c'est quelque chose. Pour représenter Dieu, il faut le connaître, hein. Est-ce que vous pouvez représenter Dieu si vous ne le connaissez pas? Et vous êtes appelé à le représenter. Alors, vous avez été appelé. Il devait le connaître. Et puis, il représentait aussi le peuple auprès de Dieu. Il y avait les deux fonctions, donc. Répondre, et vous allez comprendre une des expressions de ce chapitre, c'était ces gens-là qui devaient répondre au peuple et en même temps veiller sur le peuple. Celui qui répond est celui qui veille, n'est pas veillé sur le peuple auprès de Dieu. Ils étaient des gardiens de la sainteté, du témoignage. Alors maintenant, à vous cet ordre, sacrificateur. Mais si vous n'écoutez pas, vous ne pouvez pas écouter, hein, parce que Dieu ne vous viole pas. Il vous demande une obéissance volontaire. Si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur, mais est-ce que nous prenons les choses à cœur? Est-ce que c'est pour nous que c'est écrit ou bien est-ce que c'est simplement l'histoire d'Israël? Si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, est-ce que nous aussi nous devons glorifier le nom du Seigneur? Quand? Toujours. C'est le temps de donner gloire à notre Dieu. J'ai écrit une petite brochure là-dessus. Donnez gloire à votre Dieu avant qu'il ne fasse venir les ténèbres. Et cette conférence, je l'avais fait justement à Phnom Penh, au Cambodge, parce que je l'avais fait d'abord au Vietnam, et puis ceux du Cambodge m'ont demandé d'aller apporter ce message à Phnom Penh, après l'avoir donné à Saïgon. Et là, à Saïgon, il y avait 1500 personnes qui étaient là, rassemblées, et on savait que ça n'allait pas durer longtemps, que les portes allaient se fermer. Eh bien, donnez gloire à votre Dieu avant qu'il ne fasse venir les ténèbres et que vos pieds ne heurtent contre les montagnes de la nuit. Et c'est maintenant la nuit de l'incrédulité, la nuit du marxisme, la nuit de l'athéisme et du génocide des Cambodgiens. C'est quelque chose d'abominable ce qui s'est fait. Donnez gloire à l'Éternel votre Dieu, dit l'Éternel des armées. J'enverrai parmi vous la malédiction, et je maudirai vos bénédictions. Si vous voulez savoir ce que ça veut dire, ça lisez le chapitre 28 du Deutéronome. Vous voyez là tout ce que Dieu promet d'abord à ce peuple s'il obéit comme bénédiction. Hein. Mais s'il n'obéit pas, qu'est-ce qu'il lui annonce? Des malédictions. Mais à la fin, il lui dit, mais quand vous aurez connu toutes ces malédictions, si vous revenez, alors je vous rétablirai. Vous voyez, je vous ai aimé, je vous aime, malgré toutes les déceptions que vous me donnez. Dieu dit, vous me décevez, c'est vrai, mais je vous aime encore. Et je vous aime toujours. Et même si je dois vous frapper, c'est justement parce que je vous aime. Parce que je n'ai pas décidé de vous abandonner. Je ne peux pas vous abandonner. Mais alors, soyez avertis. Oui, je les maudirai. Parce que vous ne l'avez pas à cœur. Alors, vous voyez, la question pour nous, c'est est-ce qu'on a à cœur le Seigneur? Est-ce qu'on a à cœur sa parole? Est-ce qu'on a à cœur les intérêts du Seigneur? Ou bien, est-ce que ce qui compte, c'est ce qui plaît aux hommes? parce que c'est ça qu'on a à la fin du chapitre premier. Hein. On profane la table du Seigneur, on se plaint que ça ne rapporte pas grand-chose, on est fatigué du service, mais on accepte quand même des victimes qu'on devrait refuser avec ceux qui les apportent. On devrait dire la vérité, mais maintenant on ne la dit pas. On nous dit, mais vous osez encore dire ça? Pourquoi? Mais moi, si je disais ça, on me mettrait dehors. Ouais, peut-être qu'il faut être dehors pour pouvoir dire des choses. Parce qu'une fois qu'on est dehors, on ne peut plus nous y mettre. Hein? C'est vrai. Frère de la rue, frère du trottoir. Mais le Seigneur nous retrouve dans la rue. Quand on a chassé l'aveugle-né de la synagogue, il est dit, et le Seigneur le retrouva dehors. Et dans cette église qui se croit riche, enrichie, n'ayant besoin de rien, où se trouve le Seigneur? Je me tiens à la porte, il est donc dehors. On le croit dedans et il est dehors. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre, voyez-vous, mon père le disait souvent et je suis persuadé qu'il avait raison, à la fin de l'économie de la grâce, le témoignage sera surtout un témoignage individuel. Mais si le témoignage individuel se multiplie, ça deviendra un témoignage collectif. Mais pour que la collectivité soit réveillée, il faut que les individus soient réveillés. Alors, il faut l'avoir à cœur. Voici, parce que si vous ne prenez pas ça à cœur, qu'est-ce qui va arriver? Verset 3. Je détruirai vos semences. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il y a quand les semences sont détruites? La famine. On vous parle de famine partout. Vous recevez des appels de droite, de gauche. Il y a la famine. Je détruirai vos semences. Mais alors, ça va loin, hein? C'est un peu choquant. Vous trouvez que c'est choquant? Chouraki a dit, je flanque ça à votre figure. Hein? Là, il a dit, je jetterai les excréments à votre visage. Ailleurs, il a dit, les ordures de votre cœur. Parce que les ordures, elles sont là. Ben oui, elles sont là. On le sait très bien, puis on les conserve. Mais que vous les auriez sur la figure, tout fumier de notre cœur sur le visage. C'est pas drôle. Et vous voulez me consulter, lisez chapitre 14 d'Ézéchiel, c'est toujours la même chose. Les gens veulent consulter Ézéchiel, prie pour nous, consulte le Seigneur, on se trouve dans une situation difficile, vous ne pourriez pas prier pour moi? Moi je veux bien prier pour vous. Mais qu'est-ce que vous faites? À quoi en êtes-vous? C'est ça? Vous gardez vos idoles dans votre cœur. Et là, on peut vraiment parler de la télévision. Quand on voit ce qui se passe, ce qu'on peut montrer à la télévision, enfin, je ne peux pas dire que je le vois, puisque je n'en ai pas. Mais enfin, je sais quand même, je voyage, et si vous êtes dans une chambre d'hôtel, forcément, vous voyez, mais on en a soupé, hein, on en a assez. Alors, mais qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on montre? Qu'est-ce que nos enfants, les petits-enfants voient? Oh, vous me direz, mais nous contrôlons ça pour nos enfants. Ils ne voient rien. Ils ne voient rien. Alors, vous voulez me consulter? Lisez le chapitre 14 d'Ézéchiel. Vous voulez me consulter? Et puis vous gardez vos idoles dans votre cœur. Vous mettez ce qui vous fait tomber dans l'iniquité, vous mettez cela devant vos yeux. Et justement, Chouraki dit, les ordures de votre cœur. Non, ça c'est pas Chouraki qui dit ça. Chouraki dit, la crotte. Vos crottes. Les crottes de votre cœur, vous mettez ça devant vos yeux. Et les ordures, c'est Jérusalem qui dit ça. Vous mettez vos ordures. Darby dit vos idoles. Second dit vos idoles aussi. Devant vos yeux. Puis, et je serai consulté par vous. Et puis, il dit, si le sacrificateur dit, si le prophète dit bien, oui, mais enfin, vous savez, on est dans ce monde-là, c'est comme ça, puis on ne peut rien faire, eh bien, la peine du prophète sera la même que celle qui va tomber sur ceux qui ont osé consulter le prophète. Donc, j'ai une responsabilité terrible en annonçant la parole. Je vous jetterai les excréments au visage. les excréments des victimes que vous sacrifiez, et on vous emportera avec eux. Ça veut dire que vous deviendrez aussi excréments. Ah, mais vous allez dire quand même, il ne nous ménage pas. Je ne me ménage pas. Parce que la parole est à deux tranchants, il y en a un qui est pour moi. Elle me parle. Et on vous emportera avec eux. Et ça, c'est le langage de Jésus. Si le sel a perdu sa saveur, il est plus bon qu'à être jeté où ? Sur le fumier. C'est le mot que Jésus a employé. Du fumier, et vous devenez du fumier. Et je me souviens encore d'avoir dit cela d'une autre façon, mais à Phnom Penh, justement, il y avait un grand général américain qui était là, eh bien, celui qui me traduisait, qui était un capitaine américain, et qui c'était à l'ambassade américaine, quand j'ai dit, si nous ne sommes pas le sel de la terre, ici au Cambodge, il y avait seulement 800 chrétiens, donc les Cambodgiens bouddhistes ne pouvaient apprendre l'évangile que par la vie de ces chrétiens, puisqu'ils ne disaient pas l'évangile, eh bien si nous, là au Cambodge, nous ne sommes pas le sel de la terre, eh bien, qu'est-ce que nous sommes? Nous sommes bons à rien, et nous donnons raison à ceux qui disent que la religion, c'est l'opium du peuple. Alors ça, il n'avait pas osé traduire, mon traducteur. Mais pourtant, il y a eu un sourire dans toute l'église là, de l'ambassade, parce qu'ils avaient bien compris l'opium du peuple. Nous donnons raison à ceux qui disent que la religion est l'opium du peuple, parce que les chrétiens, ils doivent être le sel. Parce que si nous avons perdu notre saveur, si nous ne donnons plus le goût des choses de Dieu au monde, le monde, il va prendre une autre idéologie. Et il va penser que Karl Marx a fait mieux que Jésus-Christ. Et je me souviens toujours de cette poignée de main du général Very Good Message. À la sortie, hein, parce qu'il donne la main à la sortie. Il m'a regardé dans les yeux. Puis 4 jours après, j'ai reçu une lettre de Phnom Penh. Nous prenons en reconnaissance de votre message tous les frais que vous avez eus pour venir à Phnom Penh. Voilà. C'est payant. Je n'ai pas demandé d'argent. Hein. Mais voilà ce que le Seigneur fait. La vérité doit être dite. Et il y a une reconnaissance chez les gens qui disent « C'est bien ce que nous pensions, mais nous n'osions pas le dire. » Jésus, s'il ne voulait pas aller à la croix, il ne devait pas faire le discours du chapitre 23 de Matthieu. Vous connaissez ce qu'il a dit, hein? Aveugle, hypocrite, fou, race de vipère, serpent, sépulcre blanchi. Bon, après ça, vous savez ce qui va arriver. Mais ça, c'est dans le programme. C'était dans le programme de Jésus et c'est aussi dans notre programme. Comprenez, sois fidèle jusqu'à la mort. Mais on a peur de mourir. J'aime bien rappeler là la belle phrase de ma belle-mère, dont la mémoire m'est infiniment chère, la mère de ma femme qui est ici, quand on lui disait, mais vous n'aviez pas peur des Japonais qui risquaient de vous couper la tête?
Mais qu'est-ce qu'ils pouvaient nous faire? Ils m'auraient envoyé vers le Seigneur. À son Seigneur, à ma belle-mère, ce n'était pas une idée. Mais qu'est-ce qu'ils pouvaient nous faire? Ils m'auraient envoyé vers le Seigneur. C'est tellement beau, ça. Puis on arrive à 94 ans.
Elle est maintenant vers le Seigneur. Mais vous voyez, je jetterai, vous allez dire, mais ce verset 3, il insiste trop là-dessus. Oui, on va passer, hein, parce que ça commence à sentir. Et vous allez me dire que la Bible est un livre ennuyant? Vous saurez alors que je vous ai adressé cet ordre, hein, verset 4, afin que mon alliance avec Lévi subsiste, dit l'Éternel des armées, parce que lui veut faire subsister l'alliance, malgré ce que nous sommes. Mon alliance avec lui était une alliance de vie et de paix. Ça, vous pouvez bien le comprendre. Si c'est Dieu qui fait une alliance, c'est une alliance de vie et de paix. Je ne sais pas ce qui se fera à Genève, mais en tout cas, quand c'est le Seigneur, c'est une alliance de vie et de paix. Ce que je lui ai accordé pour qu'il me craigne, et il lui en a donné pour qu'il le craigne, Et il a eu pour moi de la crainte. C'est vrai qu'il y a eu dans la vie des Lévites, il y a eu de la crainte d'abord. Il a tremblé devant mon nom. Vous vous souvenez quand il a tremblé devant son nom? Au mont d'Or, quand Moïse est descendu de la montagne, il a dit, qui est pour moi? Et ce sont les Lévites qui se sont mis de son côté. Il leur a dit, passez à travers le camp avec chacun son épée et tuez votre frère. C'est pas drôle, hein? Mais ils ont pris position pour l'Éternel et ils ont détruit ce qui devait être détruit. Ils ont eu de la crainte. Il a tremblé devant mon nom. La loi de la vérité était dans sa bouche. Qu'est-ce que c'était cette loi de la vérité? Les commandements qu'ils avaient entendus sur la montagne du Sinaï. Et l'iniquité ne s'est point trouvée sur ses lèvres. Il a marché avec moi dans la paix et dans la droiture. Et il a détourné du mal beaucoup d'hommes. Qui en particulier? Il est dit Lévi. Mais qu'est-ce que vous trouvez dans l'histoire de Lévi? Après la mort d'Aaron, il y a eu Éléazar, qui a été revêtu des vêtements sacerdotaux sur la montagne de Hor, où Aaron est mort. Mais Éléazar avait lui-même un fils, qui s'appelait Phiné. Et vous vous souvenez de l'histoire de Balaam, le prophète qui avait été loué par le roi Balak pour maudire Israël, et qui n'a pas pu maudire Israël. Et alors, comme le roi l'avait quand même payé, il lui a donné un petit conseil. Je ne peux pas maudire Israël, je ne peux pas maudire ce que Dieu n'a pas maudit. Je ne peux pas dire autre chose que Dieu m'a dit de dire, mais tu pourrais faire quelque chose pour qu'il soit maudit. Invite les filles de Moab à faire un banquet avec les Israélites. Et puis emploie les filles pour séduire qui? Les fils d'Israël. Alors que Dieu avait dit, tu ne épouseras pas une fille de Dieu, des dieux étrangers. Vous vous marierez entre vous, croyants. Ben non. Qu'est-ce qu'on a fait dans les plaines de Moab? On a fait un grand festin. Puis qu'est-ce qui arrive quand on fait un festin? C'est le temps des festivals. Aujourd'hui, hein, vous n'avez maintenant plus que ça dans les journaux religieux. Festival ici, festival là. Je ne vais pas revenir sur ce que j'ai dit à Sutton il y a 4 ans. Sur les festivals. Tout est festival aujourd'hui. C'est la fête. Fête à l'Éternel. Mais c'est comme ça qu'on a dit. Demain, une fête à l'Éternel. Puis qu'est-ce qu'on a fait? On a adoré quoi? Le veau d'or. Hein? Bon. Un beau festival. La musique, les danses et tout ce que vous voulez. Lisez le chapitre 10 des Corinthiens. Et vous verrez. Mais on est complètement dévoyés. Alors, dans un festival de ce genre, on a vraiment des relations humaines, communication. Et la musique, c'est une grande communication. Je n'ai rien contre la musique, j'aime la musique. Mais enfin, c'est le langage, le nouveau langage, la musique, surtout si elle est forte. Et alors, qu'est-ce qui arrive? Voilà un prince d'Israël qui s'amène avec une belle fille de Moab. Puis qui devant tout le monde, narguant tout le monde, et il va avec cette fille de Moab qui s'appelait, vous connaissez l'histoire? Cosby. Hein? Alors, il va dans la tente. Dans la tente, quoi faire? Vous vous imaginez? Oh non! Je ne vais pas vous faire un dessin. Qu'est-ce qu'il va faire dans la tente avec cette belle fille de Moab? Ben, vous le saurez. Quand Phiné, lui, quand il voit ça, et qu'il pense que tout le peuple va être puni à cause de cela, il prend une lance, il les suit. Et qu'est-ce qu'il arrive? Il n'a pas eu besoin de donner 2 coups. Il les a transpercés 1 fois. Pourquoi? Parce qu'ils étaient déjà ensemble. D'un seul coup. Parce qu'ils étaient déjà accouplés. Parce que c'est ça, ça n'a pas changé le monde. Mais aujourd'hui, c'est plus que courant. Tout le monde le fait. Quand une petite de 13 ans n'a pas encore eu de relation sexuelle, les parents s'inquiètent. Elle n'est pas normale. Vous entendez des choses et ah, affreuse, mes amis. Et nous sommes dans un monde déchristianisé, de gens qui ont été baptisés. J'entends encore cet homme à Paris qui me parlait de son fils de 17 ans. Il disait, tu te rends compte? Je suis vraiment inquiet. Il a pas encore eu de relation avec une fille. Parce que les garçons, c'est tout à fait normal hein, qu'ils aient des relations. Les filles, ben peut-être, c'est un peu embêtant, parce que si elles ne prennent pas la pilule, elles risquent de revenir avec eux. Oui. Les conséquences. Mais, comme disait une vieille dame il y a 50 ans, rentrez vos filles, mes coqs sont sortis. C'est à vous de veiller sur vos filles. Moi, j'ai des garçons. Quand les coqs sont sortis, rentrez vos poules. C'est devenu dans les mêmes... Mais c'est vieux comme le monde, cette histoire. C'est vrai. C'est pas quelque chose de nouveau. Mais ce qui est nouveau aujourd'hui, c'est que ça se fait publiquement. C'est que ça s'étale maintenant dans la rue. Bien, voilà. Eh bien... Finet, et c'est là que je voulais en venir, Finet, lui, il a arrêté le mal. Parce que c'est pas un criminel, non. Dieu a dit de Finet qu'il l'avait honoré. Parce qu'il a empêché, beaucoup de personnes de mourir. Parce qu'il a arrêté la plaie et qui venait sur Israël. Vous voyez, verset 20, chapitre 25 des Nombres. Israël demeurait à Sittim, mais le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu, et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. Israël s'attacha à Baal-Péor, et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Et l'Éternel dit à Moïse, assemble tous les chefs du peuple, et fais pondre les coupables devant l'Éternel en face du soleil, afin que la colère ardente de l'Éternel se détourne d'Israël. Et alors, voilà, Moïse dit tout cela. Verset 6. Et voici un homme, malgré qu'on savait que c'était puni de mort, la chose. Et voici un homme des enfants d'Israël vint et amena vers ses frères une Madianite, sous les yeux de Moïse. Vous voyez qu'on nargue même Moïse. Sous les yeux de toute l'assemblée d'Israël. Tandis qu'il pleurait à l'entrée de la tente d'assignation. À cette vue, Finet, fils d'Éléazar, qui était fils lui-même d'Aaron, se leva au milieu de l'assemblée, il prit une lance dans sa main, il suivit l'homme d'Israël dans sa tente, et il les perça tous les deux, l'homme d'Israël, puis la femme par le bas-ventre. Et la plaie s'arrêta parmi les enfants d'Israël. Verset 10. Donc il y a eu 24 000 morts. L'Éternel parla à Moïse et dit, Finet, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, a détourné ma fureur de dessus les enfants d'Israël parce qu'il a été animé de mon zèle. On pourrait parler, faire une réunion sur le zèle. Il y a un zèle amer, mais il y a aussi son zèle. Mon zèle au milieu d'eux. Et je n'ai point, dans ma colère, consumé les enfants d'Israël. C'est pourquoi tu diras que je prête avec lui une alliance de paix, vous la retrouvez cette alliance de paix. Ne me dites pas que la parole est un amas de matériaux hétéroclites qui ne correspond pas. C'est parce que nous ne la connaissons pas que nous disons des choses comme ça. Ou c'est parce que nous faisons une lecture trop dévotionnelle de l'écriture. On lit son petit passage. Mais on n'a pas la connaissance de la Bible, depuis la première page à la dernière. Puis on recommence comme cela. Pour qu'on ait une connaissance de toute l'écriture. Non, on n'a maintenant plus que, oh, c'est un système qui vaut ce qui vaut. Mais enfin, c'est pas une connaissance biblique, ça. Vous pouvez lire votre petit passage, mais la vraie lecture biblique, c'est verset après verset, ligne après ligne. Sans ça, vous ne faites pas de progrès. Puis vous avez vos préférés, comme vous avez vos cantiques préférés. C'est pourquoi tu diras, je traite une alliance de paix avec lui. Ce sera pour lui et pour sa postérité après lui l'alliance d'un sacerdoce perpétuel, parce qu'il a été zélé pour son Dieu et qu'il a fait l'expiation pour les enfants d'Israël. L'homme d'Israël qui fut tué avec la Madianite s'appelait Zimri, fils de Salu. Il était chef. Vous voyez la responsabilité des chefs. chef d'une maison paternelle des Siméonites. La femme qui fut tuée, la Madianite, s'appelait Cosbi, fille de Tsur, chef de peuplade issue d'une maison paternelle de Madian. Voilà. Eh bien, maintenant, vous pouvez comprendre ce que dit Malachi au sujet de cette alliance qu'il a fait avec Lévi. Verset 7, je reviens au chapitre 2. Car les lèvres du sacrificateur doivent garder la science, et c'est à sa bouche qu'on demande la loi, parce qu'il est un envoyé. Et vous pouvez traduire un messager. Malachi veut dire messager. Le sacrificateur est aussi un messager, ou un envoyé de l'Éternel des armées. Mais vous, vous vous êtes écartés de la voie. Vous avez fait de la loi une occasion de chute pour plusieurs. Vous voyez que les descendants d'Éléazar et de Phiné n'ont pas marché dans les traces de leur père. Vous avez violé l'alliance de Lévi, dit l'Éternel des armées. Et moi, je vous rendrai méprisable et vil. Parce qu'on a profané son autel. Je vous rendrai méprisable et vil aux yeux de qui? Aux yeux de tout le peuple. Eh bien, frères et sœurs, tout serviteur de Dieu, quel qu'il soit, quelle église qu'il appartienne, que ce soit des prêtres dans l'église romaine, que ce soit des pasteurs dans une église protestante, que ce soit des anciens dans une assemblée dite évangélique, si nous ne sommes pas fidèles devant le Seigneur, lui nous rendra méprisables et vils aux yeux de tout le peuple. Croyez-le. Et s'il y a déclin, c'est que bien souvent, nous avons été infidèles. Parce que vous n'avez pas gardé mes voies et que vous avez égard à l'apparence des personnes. Et c'est cela, hein. On dit, mais je ne peux pas dire cela, vous comprenez. Il y a ces personnes dans l'Église, c'est grâce à elles que l'Église marche financièrement, mais ça vit dans l'adultère, mais on n'ose rien dire. Parce que s'ils ne venaient plus, alors on n'a plus de discipline à la table du Seigneur, on sait qu'il y a des choses graves, mais on les tolère. On tolère ces choses, il n'y a plus de discipline, parce qu'on peut faire une application actuelle de tout cela. Vous n'avez pas gardé mes voies, et vous avez eu égard à l'apparence des personnes. Quand c'est telle personne, on ne touche pas. Pour quelle raison? Oh, mais elle nous est utile, alors on ne la touche pas. Eh bien, ça, Dieu a en horreur qu'on fasse une différence. Il a enseigné Samuel en lui disant, l'Éternel ne regarde pas à ce que l'homme regarde. L'homme regarde à l'apparence extérieure, mais Dieu regarde au cœur. Et vous voyez, on n'est pas du tout avec Dieu quand on fait cette distinction. Dieu regarde au cœur. Et vous, vous avez eu égard à l'apparence des personnes quand vous interprétez la loi. N'est-ce pas? Et c'est ça. Pour certains, c'est la loi. Alors là, on est dur. Mais pour l'autre, oh, vous savez, on a deux poids et deux mesures. Et ça, c'est une iniquité aux yeux de Dieu. Vous voulez changer de position un instant? Nous arrivons donc au verset 10. Et vous voyez, c'est là trois questions que la conscience se pose. Dans le chapitre 1er, on a vu plusieurs questions que nous nous posons. Il y en a trois dans le chapitre 1er. En quoi nous as-tu aimé? En quoi avons-nous méprisé ton nom? En quoi t'avons-nous profané? Et si vous vous en souvenez, s'il y a trois questions que nous posons à Dieu, lui, dans le premier chapitre, nous en a posé huit. Il y a huit questions que Dieu pose dans le premier chapitre. Je ne vais pas vous les énumérer parce que vous pouvez les retrouver vous-même. Mais maintenant, ici, on a trois questions qui sont au fond des questions générales. C'est ensemble qu'on dit cela. N'avons-nous pas tous un seul Père? Qu'est-ce que vous croyez? Quand on dit cela, de qui parlons-nous? De Dieu, hein? De Dieu qui est le Père créateur. Hein? Ce n'est pas encore le Père comme nous sommes, nous devenons enfants de Dieu par la nouvelle naissance, mais en tant que créateur, nous avons tous un seul Père. Il y a un seul Dieu et Père de tous, aussi bien des musulmans, merci beaucoup, que de tous les hommes. Hein? Il a fait d'un seul sang toutes les races de la terre. Alors, nous sommes d'accord. N'avons-nous pas tous un seul Père? Première question. Vous répondez. N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés? Vous êtes d'accord? Il n'y en a qu'un Dieu. Hein? Il n'y a pas trois dieux ou quatre dieux. Nous avons un seul Dieu qui nous a créés. Pourquoi donc? Alors voilà le pourquoi. Pourquoi donc sommes-nous infidèles l'un envers l'autre? Qu'est-ce qu'il arrive? Pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas nous entendre les uns avec les autres? Parce qu'il y a quelque chose qui est dérangé dans notre nature, parce qu'on est tous, on vient tous de la même origine. En profanant l'alliance de nos pères. Mais pourquoi? Alors, si vous voulez un peu de lumière sur ce verset, Jérémie 9, versets 4 et 5, vont vous donner un peu de lumière. Jérémie 9. Ça vaut la peine de voir ce qu'il est dit là. Quand il est dit « Pourquoi sommes-nous infidèles l'un envers l'autre ?» Et cette infidélité, elle est terrible au verset 4 du chapitre 9. « Que chacun se tienne en garde contre qui ? Contre son ami. » Que chacun ne se fie à aucun de ses frères, car tout frère cherche à tromper et tout ami répand des calomnies. Ils se jouent les uns les autres et ne disent point la vérité. Ils exercent leur langue à mentir, ils s'étudient à faire le mal. Ta demeure est au sein de la fausseté. C'est par fausseté qu'ils refusent de me connaître, dit l'Éternel. C'est par fausseté qu'ils refusent de me connaître. Quand on nous dit, au moins, on voudrait bien croire en Dieu, mais c'est une difficulté intellectuelle. Vous êtes impressionné? Non. Que Dieu soit vrai, tout homme menteur, c'est pas vrai. C'est raisonnable de croire en l'existence de Dieu. Mais c'est par fausseté qu'ils refusent de me connaître. Pour quelle raison? Parce que s'ils admettaient que j'existe, qu'est-ce qu'ils devraient? Ils devraient changer de vie. Alors on est mieux dire que Dieu n'existe pas. Hein. Parce que comme ça, on continue son chemin. Parce que si Dieu existe, il a donc parlé. Et voyez-vous, quand on profane l'alliance de nos pères, quand on ne suit pas le Seigneur, eh bien, on n'est pas en communion les uns avec les autres. Si nous marchons dans la lumière, comme lui est dans la lumière, nous avons communion les uns avec les autres. Et le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. C'est la même chose. Quand je ne suis pas en communion avec Dieu, je ne suis pas en communion avec mes frères. Mais si je suis en communion profonde avec mon Dieu, Dieu lui-même me met en communion profonde avec tous ceux qui l'aiment et qui le suivent. Ça, vous pouvez le croire. Vous pouvez en être sûr. Je ne peux pas être près de Dieu et loin de mes frères. Je ne peux pas être près de Dieu et loin de ceux qui sont près du Seigneur. Vous pouvez être certain de cela. Et c'est ça la vraie unité que j'ai souvent représentée par le triangle, hein, pour que vous puissiez bien comprendre, parce qu'on raconte tant d'histoires sur notre communion. Voilà, ici c'est le sommet du triangle, c'est le Seigneur. Hein. Et disons qu'une confession se trouverait ici, disons catholique ou protestant, que sais-je, ou ici orthodoxe. Le faux œcuménisme, qu'on appelle l'œcuménisme, qui veut dire toute la terre, la fausse unité, la fausse union, parce qu'il y a une fausse unité, c'est de dire, eh bien voilà, au lieu d'être séparés comme ça de nos frères, de ceux qu'on appelle nos frères, il faut vraiment devant le monde qui est dans une si triste situation, il faut vraiment se rapprocher. Alors, de la base, vous rapprochez, puis vous aussi, vous faites des pas à ma rencontre. Et on se met d'accord, on arrive à une espèce de consensus. Ça, c'est la fausse unité. Tandis que le chemin vers la vraie unité, c'est du point où tu te trouves, tu montes vers le Seigneur. Du point où là tu te trouves, tu montes aussi vers le Seigneur. Alors, qu'est-ce qu'il arrive? Plus on approche du sommet, plus on est près l'un de l'autre. Ça, c'est la vraie unité. C'est donc une marche, non pas l'un vers l'autre qu'il faut d'abord, mais l'un, une marche vers le Seigneur. Et plus je suis près du Seigneur, plus je suis près aussi de ceux qui aiment le Seigneur. Souvenons-nous de cela. Ça peut nous aider. Parce que sans cela, et toutes nos divisions, ça vient pas, les divisions entre croyants, ça vient pas du Saint-Esprit. Vous pouvez être sûr de cela. Et vous devez dire non aux divisions. Les divisions, elles viennent de quoi? De la chair. Hein. Le Saint-Esprit, il nous sépare du mal et du monde, et il unit les enfants de Dieu ensemble. Mais la chair nous divise. C'est toujours la chair et qui nous divise. Les œuvres de la chair, nous les connaissons, elles sont... les divisions sont dans le catalogue des œuvres de la chair, dans Galates 5, versets 19 et suivants. Vous voyez que les divisions sont dans les œuvres de la chair. Tandis que le Saint-Esprit, il unit les enfants de Dieu, qui ont le même esprit. Mais il nous sépare du mal et du monde. Verset 11. Judas s'est montré infidèle. Judas, c'est donc les Juifs qui sont remontés de la captivité, qui auraient dû être fidèles, puisque Dieu avait manifesté toute sa puissance en convertissant Cyrus, qui avait mis vraiment son argent même à la disposition des Juifs pour reconstruire le temple. Judas s'est montré infidèle, et une abomination a été commise en Israël et à Jérusalem, dans l'Israël retrouvé de ce temps-là, et dans Jérusalem rebâti, car Judas a profané ce qui est consacré à l'Éternel, ce qu'aime l'Éternel. Voilà que ce peuple qui a fait pourtant une si grande expérience de la fidélité de Dieu, il s'est de nouveau corrompu. Et qu'est-ce qu'il a fait? Premier reproche. Il s'est uni à la fille d'un Dieu étranger. Voilà. Il recommence comme s'il n'avait pas une histoire et les conséquences de cette histoire. Il s'est uni à la fille d'un Dieu étranger. Alors, lisez Esdras. Esdras qui a été employé par Dieu, donc c'est avant les psaumes, avant Néhémie, après les chroniques, Esdras, le scribe, est monté à Jérusalem pour enseigner le peuple, et quand il y arrive, eh bien, vers chapitre 9, après cela, les chefs s'approchèrent de moi en disant, le peuple d'Israël, les sacrificateurs et les lévites, ne se sont point séparés des peuples de ce pays, ils imitent leurs abominations, celles des Cananéens, des Héthiens, des Phérésiens, des Jébusiens, des Ammonites, des Moabites, des Égyptiens, des Amoréens, car ils ont pris de leurs filles pour eux et pour leurs fils, et ils ont mêlé la race sainte avec les peuples de ces pays, et les chefs et les magistrats ont été les quoi? Les premiers, voilà l'exemple. Vous rendez-vous compte? Ils ont été les premiers à commettre ce péché. Alors, quand Esdras entend ça, il déchire ses vêtements et tout et tout. Et il pleure. Et il s'humilie. Et au temps de Néhémie, c'est la même histoire qui se reproduit. Donc, Néhémie qui est juste après Esdras, verset chapitre 13, déjà au chapitre, enfin dans les chapitres précédents, mais je ne m'en vais pas vous lire tout cela, vous trouverez cela dans Néhémie et vous verrez ce qu'a fait Judas. Une abomination, verset 1, je reviens à Malachie, a été commise en Israël à Jérusalem. Judas a profané ce qui est sacré à l'Éternel, ce qu'aime l'Éternel. Donc il y avait la question des sacrifices, des bêtes qu'ils offraient, mais maintenant il y avait autre chose. Il s'est uni à la fille d'un Dieu étranger. L'Éternel retranchera l'homme qui fait cela, celui qui veille et celui qui répond.